besoin du PowerPoint pour la prédication. Parce qu'en plus, on attaque assez directement avec une petite vidéo que j'ai vue. C'était le 23 novembre dernier sur la chaîne YouTube de LCI. Et voilà ce que donc cette chaîne diffusait le 23 novembre dernier, si j'arrive.
On va parler de cette envie subite, ou presque d'ailleurs, on l'écoutera dans un instant, de négocier avec un Poutine qui souffle le chaud et le froid. Hier, il promettait des frappes nucléaires en réponse aux attaques sur la Russie. Et aujourd'hui, ce sont plusieurs de ses proches et des proches du Kremlin qui ouvrent des pistes à des discussions pour mettre fin à la guerre. Toutefois, il y a une condition, que cela se fasse avec un certain Donald Trump.
Voilà, donc on va parler de paix. On va parler de paix aujourd'hui. Et en voyant cette vidéo, je me disais personnellement que si la paix, ma paix, la paix intérieure que je peux vivre, est conditionnée au pourparlers entre Vladimir Poutine et Donald Trump, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me dis que j'ai un peu de soucis à me faire, en fait. C'est assez préoccupant, le tout entre deux menaces d'attaque nucléaire, de se dire que notre paix est conditionnée aux discussions entre ces deux-là. La semaine dernière, pour le premier dimanche de l'Avent, on a parlé d'espérance, on a parlé de lumière qui surgit dans les ténèbres, et aujourd'hui, pour le deuxième dimanche, on va parler donc de paix. Parce que Jésus, en Jean 14, 27, dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et qu'il ne cède pas à la lâcheté. » Alors, on a l'impression là qu'il y a deux types de paix et qu'il y a une de ces deux paix là qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est difficile à croire en fait. C'est difficile à croire. C'est assez loin, me semble-t-il, de ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Si vous êtes fait du même bois que moi, votre paix dépend en bonne partie de ce qui se passe autour de vous. Et j'ai eu encore l'occasion d'y penser ce matin en venant parce que voilà, on avait décidé d'être prêt pour 9h, on devait partir à 9h. Et puis à 9h moins 10, j'observais autour de moi que ça ne bougeait pas beaucoup, à 9h moins 5 non plus. Et puis à 9h moins 3, ça a commencé à se mettre en mouvement. Et ça a troublé ma paix, voilà, parce que moi j'avais prévu de partir à 9h. Et je me suis dit, je vais parler de cette paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, alors que moi-même, ce matin, pour 5 minutes de retard, je m'agace. Et c'est ennuyeux en vrai. C'est ennuyeux parce que le contrôle qu'on a sur les circonstances extérieures, en fait, est très limité. Je ne contrôle pas la météo, je ne contrôle pas les pépins de santé, je ne contrôle pas l'hubris des politiciens, leur délire de grandeur, je ne contrôle pas l'humeur de mon conjoint, je ne contrôle pas l'humeur de mes enfants, parfois je ne contrôle même pas ma propre humeur. Et toutes ces choses, bien plus souvent que je le voudrais, viennent effectivement troubler ma paix. Et pourtant, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, dit Jésus, et moi je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc il y a une paix que le monde donne, et puis qui est là une fausse paix, une paix qui finalement n'est pas si paisible que ça, une paix de façade, trop superficielle. Et il y aurait apparemment la paix du Christ, qui est d'une autre nature et qui est au fond celle à laquelle nous aspirons tous désespérément. Alors je vais prier, puis ensuite on ira dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Seigneur, nous aspirons profondément à cette paix que toi tu offres et que tu promets. Seigneur, nous nous approchons maintenant de ta parole, dont nous savons qu'elle n'est pas n'importe quelle parole, qu'elle n'est pas une parole parmi d'autres, qu'elle n'est pas simplement une parole là, issue de l'Antiquité, comme il y en a plein d'autres. C'est une parole éternelle, une parole de vie. une parole de vie qui est capable de nous transformer de l'intérieur, qui nous rejoint dans ce qu'on vit, une parole qui nous amène plus près de toi, qui nous amène à te connaître, à savoir qui tu es, qui nous amène à nous regarder nous-mêmes en face dans ce que nous sommes et qui vient nous restaurer, nous guérir et même nous sauver. Seigneur, c'est ce que nous te demandons pour ce matin, que ta parole fasse son effet dans nos vies. Nous brisons ce matin en ton nom les résistances qui sont là. Nous laissons nous débroussaillons, je dirais, notre vie intérieure des préoccupations pour laisser l'espace à l'écoute et pour que ta parole puisse tomber dans la bonne terre que nous sommes. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors, ce texte est de circonstance avec la saison. Luc 2, versets 1 à 14. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple aujourd'hui dans la ville de David. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre, paix parmi les humains, en qui il prend plaisir. » Alors la semaine dernière, alors qu'on abordait la prophétie messianique d'Ésaïe 9, versets 1 à 6, on a parlé du contraste entre l'image d'Épinal qui nous sort tout droit de l'imaginaire de Noël et puis la réalité de ce que vivait le peuple au moment de cette prophétie, peuple qui à ce moment-là était assiégé et apeuré et qui cherchait son salut dans les médiums, dans les idoles et dans un pacte contre nature avec l'ennemi, avec la Syrie. Et ici, c'est un petit peu la même chose. Il y a évidemment quelque chose de glorieux dans ce texte, on l'a lu, l'ange du Seigneur est là, une multitude de l'armée céleste se joint à lui pour rendre gloire à Dieu pour ce petit être qui vient de naître. Mais ça ne doit pas nous faire oublier, je crois, que l'histoire qui nous est racontée, c'est une histoire dure, ça a été un peu effleuré ce matin déjà. On parlait la semaine dernière de la chute du royaume d'Israël, qui a été suivie de la chute du royaume de Juda, avec une domination d'abord assyrienne, puis babylonienne. Donc ces deux royaumes n'existent plus en tant que tels. Et maintenant, en fait, il n'y a même plus ni la Syrie ni Babylone. Maintenant, c'est tout ce petit monde est sous domination romaine. Et le recensement dont il est question ici, c'est une obligation. Et c'est vrai, tu l'as dit aussi, nous, on vient jusque chez nous. Voilà, on vient frapper à notre porte pour savoir, pour remplir un petit questionnaire, savoir qui vit ici. Là, ce n'était pas le cas, c'était au peuple de se déplacer. Et c'est une obligation. Donc, Marie, qu'elle soit enceinte ou pas enceinte, c'est pareil. Peu importe, l'occupant romain a besoin d'organiser le système fiscal, la circonscription militaire. Et dans des provinces conquises, comme l'étaient la Judée et la Galilée, se soustraire à ce recensement pourrait éventuellement être perçu comme un acte de rébellion. Donc, ce n'est pas un voyage d'agrément. Voilà. Je trouve que, enfin, je le dis parce que les images qu'on peut véhiculer, le voyage sur un âne, tout ça, c'est sympa, il fait beau. En fait, non. C'est un voyage très dur, on peut imaginer. Enfin, ne serait-ce que le fait d'être enceinte sur un âne, sur un voyage de 3 jours, je pense que voilà, le contexte nous dit quelque chose. Je ne pense pas que quelqu'un se mettrait volontairement dans cette situation-là. En fait, c'est le voyage d'un peuple conquis qui doit obéir aux ordres de son oppresseur. Et c'est dans ce contexte-là que les anges annoncent aux bergers, « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Et je crois qu'on peut aussi comprendre là un peu pourquoi le peuple juif à ce moment-là se dit « Oh, un sauveur, très bien, on en a bien besoin, quoi. » Parce que l'occupant romain, ça va 5 minutes, mais on en a bien besoin. Et c'est aussi à eux que l'armée céleste annonce la paix sur la terre parmi les humains en qui Dieu prend plaisir. Et cette paix-là n'est pas la paix que le monde donne. Alors, on peut se poser d'abord la question, quelle est cette paix que le monde donne? Qu'est-ce qui nous est proposé? La Bible, elle parle de paix véritable, mais elle parle aussi de fausse paix, de paix illusoire. Et les prophètes dans l'Ancien Testament la dénoncent, cette fausse paix. Vers la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, on a l'Empire babylonien qui prend de l'ampleur, on en a parlé la dernière fois, et le prophète Jérémie, il essaye d'avertir le peuple du danger qui approche. Jérémie 5,15 dit « Je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, déclaration du Seigneur. C'est une nation forte, c'est une nation qui est depuis toujours, une nation dont tu ne connais pas la langue » et dont tu ne comprendras pas ce qu'elle dit. » Seulement, Jérémie se heurte à une fausse paix qui est annoncée par d'autres prophètes. Et en Jérémie 6,13, Jérémie donc dit « Depuis le prophète jusqu'au prêtre, tous pratiquent le mensonge. Ils soignent à la légère la blessure de mon peuple. Tout ira bien, disent-ils, et rien ne va. » Et je pense que c'est une tentation. Il soigne à la légère la blessure de mon peuple, dit Jérémie. Quand on est blessé, on peut être tenté, effectivement, de soigner ça de manière un petit peu superficielle. C'est tentant, face à la blessure, de ne pas aller au fond des choses, de mettre le mal sous le tapis et de se dire « bon, ça va aller, quoi, tout ira bien ». Et donc, quand rien ne va, évidemment, la vraie paix ne consiste pas à dire que tout ira bien. Ça, c'est une première leçon qu'on peut tirer. La vraie paix, ce n'est pas une paix qu'on obtient en mettant la tête dans le sable face à la menace et au danger. Ça s'appelle le déni. Et c'est une forme de paix que le monde donne, le déni. On ne regarde pas les choses en face. Et le déni, évidemment, n'est pas la paix. Pourtant, il peut durer longtemps. Par exemple, toujours dans cette même histoire, l'Empire babylonien, finalement, a effectivement conquis Juda. Donc cette paix qui était annoncée déjà était fausse. Et pourtant, les prophètes, dont Dieu dit d'ailleurs en Ézéchiel aussi, qu'ils sont les prophètes de leur propre cœur. Ça aussi, c'est intéressant, je trouve, parce que c'est une aspiration. On aspire à la paix. On aspire profondément à la paix. Et donc, on a peut-être aussi cette tendance à annoncer la paix parce que c'est ce qu'on désire au fond de notre propre cœur. Mais ce n'est pas toujours un service qu'on rend. Ces prophètes, même après avoir été attaqués par l'Empire babylonien, ils continuent à parler de paix, même dans ces circonstances-là. « Tout ira bien, disent-ils, quand rien ne va. » Ézéchiel 13, 10. Et donc là, ce n'est plus Jérémie qui dénonce cette attitude. Vous voyez, c'est de prophète en prophète, on y va. C'est Ézéchiel qui dit « Ainsi, puisqu'ils égarent mon peuple en disant « Tout ira bien quand rien ne va », mon peuple bâtit un mur et eux l'enduisent de badigeon. Dit à ceux qui l'enduisent de badigeon, il tombera. Une pluie torrentielle arrive. Vous, grêlons, vous tomberez. Et un vent des tempêtes fera tout éclater. Une fois le mur tombé, ne vous dira-t-on pas « Où est l'enduit dont vous l'avez couvert ?» Alors, ce n'est pas un rôle rigolo que celui de Jérémie et d'Ézéchiel. C'est plus agréable, finalement, d'être de ces prophètes qui annoncent la paix. Eux se font prophètes de malheur, ils annoncent des choses qu'on n'a pas envie de voir venir. Il y a de ça presque 20 ans, un membre de ma famille, de qui je suis très proche, quelqu'un de proche dans ma famille, était marié depuis déjà une dizaine d'années, et moi, je venais de me convertir. Et je dirais que d'aveugle que j'étais, je me suis mis à voir des choses et je me suis mis notamment à voir que son couple était bancal, vraiment. Ça battait de l'aile, quoi. C'était un couple qui dysfonctionnait. Mais ils dysfonctionnaient harmonieusement, si vous voulez. Ils boitaient, mais ils boitaient ensemble, quoi. Et je me disais, en regardant ça, bon, ça vivote, c'est bancal, mais ça tient. Tout ira bien, tout ira bien. Et j'ai rien dit. J'ai pas dit ce que j'observais, j'ai pas dit ce que je voyais. J'ai rien dit parce que j'ai eu peur qu'en 10 ans, je mette à mal cet équilibre fragile. Je me suis dit, mais s'il y en a un des deux qui se met à voir les choses comme elles sont et que l'autre non, ou pire, si l'un des deux se convertit, imaginez, le bazar que ça va mettre dans le couple, ça vivotera plus, ça explosera. Et j'ai pas voulu être ce prophète de malheur par qui le trouble arrive dans un équilibre fragile. Bon, qu'est-ce que vous imaginez qu'il se soit passé ? Si vous pensez que c'est en ne disant rien, en ne disant rien que les choses s'améliorent, voilà le résultat de mon expérience. Ce couple a évidemment, j'ai envie de dire, divorcé avec perte et fracas. Voilà. Alors, si la vérité était arrivée plus tôt dans ce couple, peut-être que ça n'aurait pas tenu davantage, en fait. Hein. Je ne dis pas que ça aurait résolu le problème. Peut-être même qu'on m'en aurait voulu, parce que c'est moi qui aurais apporté cette parole-là. Et c'est toujours plus simple de rejeter la faute sur les autres que d'assumer sa propre responsabilité. Mais ils auraient au moins eu l'opportunité d'affronter la vérité en face. Et la vérité, nous dit Jésus, vous rendra libre. Le déni n'apporte pas la paix. La paix est dans la vérité, même si c'est le chemin étroit, même si c'est le chemin difficile à affronter, c'est celui qui nous rend libre. La deuxième chose qui est liée, c'est que la paix n'est pas l'absence de conflit. Et parfois, c'est ce qu'on cherche à faire, finalement. C'est ce que j'ai voulu, moi, éviter le conflit, éviter la séparation avec le succès que ça a eu, vous voyez, un peu. On voit bien, effectivement, que la paix n'est pas l'absence de conflit. Et on le voit aussi dans l'Écriture, l'absence de conflit peut même être trompeuse. 1 Thessaloniciens 5 dit ceci, à partir du verset 1, « Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. En effet, vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront paix et sécurité, alors la destruction arrivera sur eux à l'improviste, comme les douleurs de l'accouchement sur la femme enceinte, et ils n'échapperont en aucun cas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour tel un voleur vous surprenne, car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Ce que la Bible appelle le jour du Seigneur, c'est le jour du retour du Christ qui reviendra pour juger les vivants et les morts. Et si notre paix, elle est basée sur les événements extérieurs, alors des événements extérieurs paisibles peuvent nous induire en erreur, en fait. On s'embourgeoise dans le confort matériel, on commence à trouver notre paix et notre sécurité dans des choses qui, en fait, ne sont pas solides, parce qu'elles peuvent nous être retirées. On trouve notre paix et notre sécurité dans des futilités, un compte en banque bien rempli, une famille soudée, un travail stable, une bonne santé. Et je sais que quand je parle de futilité et de famille soudée, on se dit, mais c'est pas une futilité, une famille soudée. Évidemment, toutes ces choses sont de bonnes choses, toutes ces choses contribuent indéniablement à notre bien-être, mais en même temps, elles sont toutes fragiles, toutes périssables. Elles n'ont pas cette capacité d'apporter une paix vraiment profonde et durable. Parce que la santé, ça s'en va et ça revient, et puis un jour, ça s'en va, puis ça ne revient plus. Le travail stable, ça fonctionne jusqu'au prochain plan de sauvegarde de l'emploi. On s'aperçoit que c'est l'emploi des autres qui est sauvegardé, pas le nôtre. La famille est soudée jusqu'à l'héritage, où il faut choisir entre la famille et les couleuvres que la grand-mère nous fait avaler par un partage inéquitable qui fait remonter toutes les frustrations de l'enfance, en mode, voilà, de toute façon, c'est toi qui as toujours été le préféré. Les circonstances extérieures ne sont pas suffisamment stables pour amener une vraie paix et une vraie sécurité si on s'appuie sur elles seules. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans ce même passage de 1 Thessaloniciens, nous exhorte en nous disant « Revêtons pour cuirasse la foi et l'amour, et pour casque l'espérance du salut. » Là, on a quelque chose de plus profond, de plus stable, de plus pérenne. Parce que dans la foi, l'amour et l'espérance, il y a effectivement une source de paix qui, elle, ne dépend pas des circonstances. Et puis finalement, une paix injuste n'est pas la paix. Et parfois, le monde nous propose aussi une paix injuste. Alors là, je vais chez Daniel, le prophète. En Daniel 8, il est écrit ceci, c'est Daniel donc, qui décrit un temps où un roi insolent et retors se dressera. Sa puissance s'affermira, mais ce ne sera pas par sa propre force. Il causera des destructions inouïes. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Par son habileté, la tromperie lui réussira. Il aura de l'arrogance dans le cœur. Et en pleine paix, il détruira une multitude de gens. Il se dressera contre le prince des princes, mais il sera brisé sans l'action d'aucune main. Donc on a là un roi oppressif qui, très paisiblement, très tranquillement, détruit tout ce qui lui passe sous la main, à commencer par les puissants et le peuple de Dieu, autrement dit, tout ce qui se met en travers de son pouvoir. Mais lui, il va bien, lui. Il détruit très, très sereinement, il est en paix, il est serein. Alors ça m'évoque qu'on dit parfois que quand on est dans la volonté de Dieu, on se sent en paix. Et c'est vrai, quand on est dans la volonté de Dieu, on se sent en paix. Mais l'inverse ne marche pas. On peut tout à fait se sentir très paisible en étant complètement à côté de la plaque. Le critère ultime, ce n'est pas la paix qu'on ressent. Ça, c'est un indicateur, qui est un bon indicateur, mais c'est le dernier point du discernement, c'est le point final. Et c'est le point final si et seulement si on s'inscrit déjà au préalable dans la volonté révélée de Dieu. Alors là, oui. Alors pour donner un exemple concret, qui est vraiment, je l'utilise à toutes les sauces, je suis désolé, c'est par manque d'imagination, vous m'en voudrez peut-être pas. Mais voilà, si tu es marié et que le Seigneur te dit de partir avec le voisin ou la voisine, hein, la paix que tu ressens à ce sujet, voilà, je sais que le Seigneur me le demande parce que je me sens en paix. Ben non, c'est une paix trompeuse et c'est évidemment pas le Seigneur qui te parle. Et ça n'empêche pas que tu te sentes en paix, mais très paisiblement, tu vas mettre ton couple en l'air. Que disait Ésaïe la semaine dernière ? Ésaïe 8, 20, c'est un bon verset à retenir, il est facile, il est court. À la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Si on est dans l'obéissance aux commandements et aux témoignages des Écritures, alors là, on peut commencer à sonder cette paix qu'on ressent ou qu'on ne ressent pas. Là, elle vaut quelque chose. Mais si on est dans la désobéissance, ce n'est pas la peine de se fier à un sentiment de paix, parce que dans ce sens-là, ça ne marche pas. Alors, on voit déjà là un certain nombre de... On a vu la paix que le monde donne, on voit aussi des choses qui sont relatives à la paix que Dieu donne. La paix est dans la vérité, la paix est dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance du salut. La paix est dans l'obéissance aux commandements et aux témoignages des Écritures. On voit déjà pas mal de choses. On va en voir un tout petit peu plus avec la suite assez rapidement. Luc 2,10 nous dit « L'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. » Donc évidemment, ici, on pense d'abord au peuple d'Israël, hein, puisque c'est à ce peuple-là que cette parole s'adresse. Mais la suite de la révélation et de nombreux indices dans l'Ancien Testament montrent aussi que ce peuple de Dieu va être constitué du peuple d'Israël, d'abord, et puis de gens de toutes les nations qui viennent se greffer à ce tronc d'Israël. Et Jésus inaugure un royaume de paix, donc, qui est pour tout le monde. Cette paix, elle est pour tout le monde. Et cette paix, elle ne vient pas des circonstances qui nous entourent, elle est plus profonde que ça, c'est une paix qui vient nous chercher à l'intérieur. C'est une paix qui est issue du renouvellement complet de notre être. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. C'est l'œuvre de Dieu par son Esprit-Saint. On connaît cette paix à la mesure du travail que l'Esprit opère en nous. D'où l'importance de ne pas attrister l'Esprit et de vivre conformément à l'Esprit plutôt que conformément aux appels de notre chair, c'est-à-dire aux appels de ce vieil homme que nous avons crucifié avec Christ par le baptême. Et bien sûr, la paix qui naît de cette relation-là, c'est une paix juste. C'est une paix juste parce que la proposition du Christ, c'est un renversement total des valeurs que nous connaissons dans le monde. Donc c'est un renversement total aussi de cette paix que nous propose le monde. Le monde nous dit que le plus grand, c'est celui qui écrase les autres, quoi. Jésus nous dit que celui qui veut être le plus grand doit se faire serviteur de tous. Le monde nous dit que la paix, elle est, pour les adultes de ce monde, pour ceux qui sont en mesure de dominer les autres. Jésus nous dit que celui qui veut entrer dans le royaume des cieux doit se rendre semblable à un petit enfant. Le monde nous dit que pour être en paix, ses ennemis, il faut les écraser, il faut s'en débarrasser, il faut jeter des bombes sur les têtes des uns et des autres. Et Jésus nous dit que celui qui veut aimer comme Dieu aime doit apprendre à aimer ses ennemis et à prier pour ceux qui le persécutent. Et il joint le geste à la parole. Lui qui est Dieu incarné sur la terre prend la place de l'esclave quand il lave les pieds de ses disciples lors du repas de la Pâque. On l'a entendu ce matin, lui qui a créé le ciel et la terre, il arrive parmi nous comme un petit enfant. Lui qui va être l'homme qui a coupé l'histoire du monde en deux, n'a pas regardé son rang d'égalité avec le Père comme un sujet d'orgueil, mais il s'est dépouillé jusqu'à la mort à la croix. Lui qui meurt de la manière la plus indigne et la plus injuste qui soit, demande au Père de pardonner à ceux qui l'assassinent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, dit-il. Et on a là l'exemple d'un homme de paix. Et je ne sais pas ce que ça vous évoque, mais moi ça m'évoque que ce n'est pas tout à fait à ma portée. En tout cas, ça n'est pas à la portée de l'être humain sans un renouvellement de son être intérieur. Je trouve qu'on voit là que c'est quelque chose qui nous dépasse, que c'est littéralement surnaturel, au-dessus, au-delà de ce que notre nature pécheresse peut fournir. Mais heureusement, le verset suivant, verset 11, Luc 2, 11, nous dit « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. » Ce qui nous rappelle que cette paix, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Cette paix, elle provient de notre salut, elle provient du fait que Jésus a pris sur lui notre péché à la croix, qui nous a revêtus de sa justice, qu'il a pris notre cœur de pierre, qu'il a mis en nous un cœur de chair. Et dorénavant, toutes les fois que nous agissons conformément à ce cœur de chair, c'est-à-dire conformément à notre nouvelle nature, puisque nous sommes une nouvelle créature, alors nous contribuons à transformer les relations humaines et sociales autour de nous par l'amour et par la justice de Dieu. Mais pour ça, il nous faut naître d'en haut. Il nous faut naître du Père des Lumières. Ce n'est pas possible autrement, en fait. Il y a en nous trop de colère, trop de rancune, trop de blessures, trop de choses à guérir. Et le prophète Ésaïe dit au sujet de Jésus, Ésaïe 53, verset 5, « Il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. » La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui. Ta culpabilité, la condamnation qui va avec, Jésus les a prises sur lui à la croix. Tes blessures, ta rancune, ta colère, ton besoin de justice, Jésus les a portés pour toi et il les porte encore à ta place. Et c'est là que se trouve la paix profonde. Par la foi dans le Fils de Dieu, tu n'es plus obligé de porter ce fardeau. Alors, nous savons que nous sommes dans ce temps intermédiaire entre la première venue de Jésus, où il est venu pour nous sauver, et la deuxième, où il va revenir pour le jugement et pour l'établissement de son royaume dans toute sa plénitude. Et dans ce temps intermédiaire, on est tiraillé entre ce monde déchu qui est abîmé par le péché et puis la réalité du royaume à venir dont nous goûtons déjà les prémices. et nous sentons cette tension. Et je crois que c'est d'ailleurs cette tension qui nous fait dire « Maranatha, viens Seigneur, viens, viens, parce que cette paix, on y aspire, on y aspire. » Alors parfois, le discours paraît peut-être utopiste, quoi. Cette paix profonde, est-ce qu'on peut vraiment la connaître ici-bas? Est-ce que c'est possible? Et je dirais que c'est là que la foi intervient. On peut la vivre déjà en espérance, en faisant porter notre regard vers le royaume à venir. Et comme cette espérance est certaine, je dirais qu'elle vient jusqu'à nous. Elle vient jusqu'à nous et elle nous fait vivre des choses qu'on aurait cru impossibles, comme une paix profonde dans l'adversité. Et cette paix, elle est possible. Elle est possible ici-bas. Le royaume n'est pas pleinement établi encore. Néanmoins, il vient jusqu'à nous. Le royaume des cieux est proche. C'est ce que Jésus a annoncé. C'est ce qu'il nous demande d'annoncer. Cette paix est possible. Et je le sais parce que je l'ai croisée dans des hommes et dans des femmes de foi qui étaient terriblement malmenés par la vie. Et j'ai toujours en tête, quand je parle de ça, un homme qui était à l'église à Tours, qui avait eu un accident de ski quand il était, je ne sais pas, il devait avoir 25 ans, quelque chose comme ça. Et donc là, on était plus de 30 ans plus tard. Et avec cet accident de ski, en fait, il s'était retrouvé paralysé, donc il était en fauteuil roulant. Et il a passé 30 ans, pas seulement en fauteuil roulant, mais 30 ans d'opérations. Il m'avait dit qu'il avait eu plus de 30 opérations, ça fait en moyenne une par an. Il passait par des épreuves terribles, en fait. Il souffrait dans son corps, il avait mal. Mais j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi joyeux que cet homme. J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi paisible que cet homme, au point que je me rappelle notamment d'une fois où, entre voilà, toutes les choses qu'il pouvait me raconter, il glisse comme ça. « Oui, puis alors j'ai été à l'hôpital aussi pour mon cancer de la prostate. » Je lui dis « Quoi ? T'as un cancer de la prostate ?»« Oui, mais bon, quoi ?» Enfin, « Oui, mais bon, parce qu'en fait, au milieu de tout le reste, c'était un rhume pour lui, quoi. » Il était dans une paix à laquelle, franchement, j'aspire. Et quand on écoute son témoignage, cette paix, il la trouve dans sa foi, dans la foi. Donc cette paix, je sais qu'elle existe. Et ça me rassure, quand il y a 5 minutes de retard le matin, de me dire qu'on peut être paisible, même avec 5 minutes de retard. Si on peut être paisible avec un cancer de la prostate qui se met par-dessus tout le reste, c'est qu'on peut être paisible avec 5 minutes de retard, vraiment. C'est le Seigneur qui permet ça. Alors, j'arrête là, en fait. Que le Seigneur nous fasse grâce à chacun et qu'il nous donne de connaître cette paix. Mais de notre côté, acceptons aussi de nous laisser connaître par le Seigneur, parce que, en fait, c'est là le préalable à toute paix véritable. Je vais prier. Seigneur, tu es notre paix. Nous l'affirmons. On ne le vit pas toujours complètement. On te le confie. On le confesse devant toi. Mais nous savons que c'est une vérité. Tu es notre paix. Et nous savons que cette paix profonde que tu nous promets, si tu nous la promets, c'est parce qu'elle existe et elle est possible. On sait que ton royaume sera pleinement établi à ton retour. Et que c'est à cette paix-là, au fond, que nous aspirons. On sait que, pour l'instant, on vit dans un monde déchu, où nous sommes malmenés par le péché qui est là, qui est présent, qui continue de nous tenter. Mais on sait aussi que tu nous as donné les moyens de sortir de la tentation. Alors, dans les temps où nous ne sommes pas en paix, où nous ne vivons pas cette paix que toi tu donnes, donne-nous, Seigneur, de la connaître, cette paix. Et nous savons que pour ça, nous avons besoin de nous approcher de toi. Nous avons vu que cette paix, elle dépend aussi de notre... Elle dépend peut-être même en premier lieu de notre relation avec toi, de notre accord avec tes commandements, avec ta loi, avec ce que ce que tu nous demandes d'être, de faire, de vivre. Seigneur, nous voulons entrer dans cette foi-là qui te fait confiance à toi plutôt qu'aux circonstances extérieures, plutôt qu'à ce que nous crie le monde tout autour de nous. Seigneur, nous voulons nous confier dans ta parole. Nous voulons vivre dès à présent cette paix profonde. Nous savons que c'est possible parce que tu as dit que le royaume de Dieu s'est approché de nous. Il s'est approché de nous par Jésus et Jésus vit en nous. Donc cette paix profonde, elle est en nous. Elle est en nous, en Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous de la toucher à chaque fois que nous sommes troublés, que nous sommes perturbés, que nous sommes angoissés, que nous avons peur, que nous avons de la colère, de la frustration. Seigneur, nous avons besoin de cette paix, nous le confessons et nous savons qu'elle passe par notre connaissance de qui tu es vraiment et de qui nous sommes vraiment devant toi. Fais-nous grâce. Amen.